Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 17 février. Ben, c'est votre émission qui vous parle de voyage, de nature et de science. Science, dans un sens très large, science, technologie. Ben, je suis en compagnie d'André Étienne, qui devient une vieille fidèle.
Ah, oh, presque, oui.
On est trois
mois,
te voir,
trois mois de recul.
Et de Yvan Deslauriers, qui vient en alternance. Bonjour, Yvan.
Bonjour, d'ailleurs, je ne trouve pas qu'André est vieille.
n'était pas mon propos. Hein? Alors, André, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Alors, j'ai deux sujets qui sont corrélés, finalement. L'un qui va parler de l'impression 3D qui s'attaque à nos organes. Mmh. C'est un drôle de mot, s'attaque, hein, oui. Parce qu'en fait, ça va aider à nos organes.
Oui, parce que ça semble agressif.
Oui, hein, ça semble agressif. Au contraire, vous allez voir que ça va aider à nos organes. Et l'autre article, c'est une manne de cellules souches.
Ah oui.
Il y a un lien entre les deux, vous allez voir.
Deux sujets dont on parle beaucoup, hein?
Exactement.
Impression 3D,
exactement.
Et puis cellules souches.
Exactement.
Et de ton côté, Yvan?
Ben, de mon côté, on a vécu la Saint-Valentin le week-end dernier.
Ah oui, j'espère qu'on l'a vécu.
Et il fait très froid, alors je vais vous parler d'un sujet très chaleureux, l'amour.
On a besoin de ça pour se réchauffer.
Mais en lien avec la science.
Ah ben, ça promet, hein? Ben, restez avec nous. Alors, de mon côté, je vous parle de l'Amérique submergée. C'est un dossier qui est paru dans la presse en plusieurs volets. C'est de Charles Côté. C'est paru dans la presse du 31 janvier, 1er février, 2 février, etc. Bien, on sait que le réchauffement de la planète, ça a de plus en plus de conséquences sur les côtes, sur les rivages et sur les plages même aussi. Vous vous rappelez certainement de l'ouragan Sandy, qui a soufflé très fort dans le Havre de Norfolk en 2012. Et l'inquiétude a commencé à gagner d'équipage d'un submersible nucléaire. Mm-hmm. L'eau a commencé à passer par-dessus les portes de la cale sèche et la barge qui était portée par les vagues de la tempête a menacé de se déposer sur le quai et de se renverser. Un submersible nucléaire dont on parle.
Wow. Alors,
finalement, les dommages sont évités, mais on a vraiment frôlé la catastrophe. Norfolk, c'est une agglomération de 1,3 million d'habitants. La région des États-Unis qui compte le plus de bases fédérales de toutes les sortes. Et la base navale elle-même est la plus grande de la planète. Mais ce n'est pas tout. Un des principaux centres logistiques de la garde côtière est ici, à Norfolk. Et tout comme Langley, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est une légendaire base aérienne très importante pour les États-Unis. Il y a 18 agences qui sont installées dans cette zone côtière où l'altitude moyenne est de moins de 5 mètres. Mm-hmm. Pas très élevé, hein?
Non.
Au total, des dizaines de milliards en infrastructures s'enfoncent lentement, mais sûrement, sous des flots. C'est un endroit où il fait bon vivre et les gens qui habitent cet endroit-là ne veulent pas partir. Dans la région de Norfolk, le problème de la hausse des océans est devenu impossible à ignorer. Maintenant, un simple vent du nord, qui appelle là-bas un Norcaster, un vent un peu trop insistant, ou encore une pluie un peu soutenue, et il y a des quartiers complets qui sont sous l'eau. La fréquence des inondations a augmenté de façon importante. Et de plus en plus, cela nuit à l'économie régionale.
Mais attendez, Michel, je peux poser une question?
Oui.
Qu'est-ce qu'il en est des maisons elles-mêmes, là? Parce que finalement, c'est comme ça que ça va toucher les gens.
Ce qu'il y a de particulier à cette région, c'est que la plupart des maisons sont juchées sur des pilotis de 3 mètres.
Ah oui?
Oui. Ça donne une apparence quand même typique et étrange. Et il y en a d'autres qui ne sont pas encore sur pilotis mais qui attendent le même sort. L'inondation vient parfois sans avertissement. Pour pas que nos autos soient inondées, on est rendu à devoir suivre le calendrier lunaire. C'est les gens de la place qui nous disent ça. On est avertis pour les ouragans, mais ils ne sont pas avertis pour les plus petites tempêtes. Alors, le programme fédéral, qui s'appelle le FEMA, subventionne la surélévation des maisons sur pilotis à 130 000 $
Ah, quand même.
Pièces, chaque maison. La liste d'attente comporte environ 900 maisons. C'est important quand même comme budget.
Ouais.
Et le FEMA paye pour les maisons, mais les maisons sont haussées, mais les rues.
Ah ben oui.
Qu'en est-il des rues? Et ici, on a rehaussé la rue, ça a coûté 1,3 million pour un pâté de maison. Vous imaginez? Ouais. On fait l'ensemble de la ville. Il y a des plantes de marais salants qui colonisent les pelouses, des bouches d'égout qui fonctionnent dans les deux sens. Les signes de la catastrophe en cours sont partout à Norfolk. Dans une rue, il y a des poissons qui frétillent.
Oh non.
Dans une flaque qui a été laissée par la marée. Alors, vous voyez, des conséquences incroyables, hein? On nous avertit qu'il y aura 40 cm de hausse supplémentaire d'ici 2050. Donc, ça ne va pas aller en s'améliorant. Il y a un scientifique qui connaît bien la cause de la hausse des océans. Ben, je pense que plusieurs scientifiques la connaissent. Hein.
Ouais.
C'est les glaciers qui fondent et l'eau qui prend de l'expansion en se réchauffant. Bon, ben, ça, c'est simplifier la situation. Mais lui, il sait qu'il n'arrivera rien dans cette région. Il n'arrivera à rien plutôt dans cette région conservatrice, c'est une région républicaine particulièrement. Hein? Inutile de parler des émissions de gaz à effet de serre. On ne parle pas des causes ici. On se concentre sur ce qui se passe. Si on parle des causes, les gens se mettent à parler de politique et d'idéologie. Donc, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent savoir, bon, qu'est-ce qu'on va faire, c'est tout. Le problème en Virginie, c'est que l'industrie du charbon et leurs alliés ont tellement de pouvoir que c'est difficile de transformer la conscience en action. Après le passage dévastateur de l'ouragan Sandy en 2012, des centaines de propriétaires d'Oakwood Beach, ça c'est un quartier de Staten Island à New York, ont accepté de vendre leur maison à l'État.
Mm-hmm.
Alors, c'est un sujet qui est assez vaste. J'y reviendrai à un autre moment, parce que je veux vous parler de la région de New York en particulier. On parlait de Norfolk, excusez-moi, tout à l'heure, mais ça, c'est une chose. Mais New York, ça éveille dans l'esprit des gens.
Oui, beaucoup de choses.
Et je reviendrai aussi sur la situation ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, et un autre volet aussi, c'est des plages à travers le monde. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec les plages? Donc, on laisse ça en suspens. Et on y reviendra, hein? Et c'est Charles Côté et Richard Etu aussi qui nous en parlaient dans la presse.
Bien, je vais donc vous parler d'un article qui est intitulé « L'impression 3D qui s'attaque à nos organes ». C'est un article qui a été écrit par Ray Blanco, qui est rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle « New Tech Insider ». Alors peut-être vous qui m'écoutez, ou peut-être Michel ou Yvan, connaissez quelqu'un qui est en attente d'une transplantation d'organes autour de vous.
Dans mon cas, non.
Non, mais je connais un endroit où il y a beaucoup de gens qui attendent des transplantations.
Ah oui?
Oui, ça s'appelle la Maison des greffés, l'INACIR.
OK, ben vous allez nous en parler un petit peu plus tard?
Oui, sûrement.
OK, d'accord, merci. Alors, pour le moment, ce qu'on constate, c'est que le nombre de patients en attente d'une transplantation s'est envolé et que la demande vraiment dépasse l'offre. Alors, des greffes de foie, des greffes de rein, des greffes de cœur, on en attend encore et encore. Quelques chiffres que je tiens vraiment à donner quand même, c'est que tous organes confondus, on a pris des chiffres qui considèrent essentiellement les Américains, ce sont 123 000 Américains qui sont en attente d'une transplantation d'organes. Et par an, ou l'année dernière en tout cas, il n'a été réalisé que 30 000 transplantations. Ça veut dire à peu près un quart, même pas
ouais,
un quart, c'est peu.
Ouais.
Et ce qu'on a noté également, c'est que 4500 personnes sont décédées en attente d'un organe de substitution. Et ce qui est incroyable, c'est que la pénurie est devenue tellement grave que des comités se sont créés qui évaluent la priorité des patients et logiquement privilégient évidemment généralement les patients les plus jeunes et en meilleure santé. Alors, pour les personnes âgées, ça ne va pas être très facile pour obtenir une transplantation qui risque d'être de plus en plus compliquée. Oui. Le problème est devenu extrêmement grave aussi sous un autre aspect, c'est que comme il y a un manque d'organes, il y a un marché noir qui s'est créé d'une immoralité absolument incroyable, puisque des criminels maintenant font du trafic d'organes. On a entendu des histoires épouvantables de gens volés qui se réveillent avec un rein en moins.
Dramatique. Et la situation actuellement, qu'est-ce que c'est?
Alors, la situation actuelle, c'est que donc, le don d'organes, c'est d'abord un problème pour trouver l'organe, mais ça demeure de toute façon une solution qui n'est pas parfaite. Parce que les organes qui sont issus d'un don ne correspondent pas forcément au système immunitaire du patient. Et c'est vrai, même si c'est un parent proche de vous qui est prêt à vous donner un organe pour vous sauver la vie. Parce qu'on est tous biologiquement différents, il y a toujours un risque que le système immunitaire rejette la greffe. Et les greffés, de toute façon, ils doivent prendre à vie des traitements anti-rejet qui ne sont pas toujours dénués d'effets secondaires, qui sont même souvent des effets secondaires assez lourds et très coûteux par-dessus le marché. Alors, le problème des greffes d'organes, il est différent des autres marchés de la santé.
En quoi il est différent?
Alors, il est différent par le fait que si, par exemple, on a une épidémie quelconque et qu'on a besoin de vaccins pour prévenir l'évolution de l'épidémie, on est capable de produire plus de vaccins. On est capable de produire plus de traitements en demandant aux compagnies qui les fournissent de les donner. En ce qui concerne les dons d'organes, pour le moment en tout cas, on ne peut pas produire des organes qui permettent de satisfaire tous les besoins de transplantation. Vous vous souvenez des chiffres que j'ai donnés au début?
Oui, oui.
30 000 transplantations versus 123 000 besoins. Vous avez peut-être noté que j'ai insisté quand même sur le mot « pour le moment » parce qu'il y a une révolution qui est en vue et qu'il sera bientôt possible. Alors là, je vais utiliser un mot qui m'a posé beaucoup de problèmes, je vous avoue, quand je le lisais. Imprimer des organes.
Ah oui, c'est assez fascinant. Hein?
Ah oui, complètement fascinant. Là. Oui. J'avais beaucoup de difficultés à accepter l'idée qu'on pouvait imprimer quelque chose en 3D. Alors, ce n'est pas de la science-fiction, parce qu'il s'agit d'une nouvelle technologie qui est appelée bio-impression en 3D. Les précurseurs, donc, utilisent une imprimante qui est spécialement conçue et qui emploie, en lieu et place de l'encre, des matières et des cellules humaines qui sont biologiquement compatibles. Donc, à la place de l'encre, on met des cellules humaines. Oui, oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas une plaisanterie. Hein? il existe une société, et je pense même qu'il en existe plus qu'une d'ailleurs, qui sont spécialisées dans la conception et l'impression de tissus humains qui sont fonctionnels et qu'on utilise essentiellement pour la recherche médicale, les applications thérapeutiques, pour savoir si un médicament présente ou non des risques. Alors donc, les tissus humains imprimés en 3D sont créés à l'aide de cartouches d'imprimantes composées de cellules provenant de biopsies de patients ou de cellules souches. Puis là, j'introduis mon second sujet tout à l'heure. Hein?
Mm-hmm. Ben est-ce qu'on l'a utilisé jusqu'à maintenant sur des humains?
Alors ça, j'aurais presque envie de vous renvoyer la question puis de vous dire, est-ce que vous croyez que ça a déjà été utilisé?
J'en ai aucune idée. Moi, j'ai pas entendu parler.
Non, vous croyez que non? Eh bien, figurez-vous que oui, ça a été déjà utilisé. Ça me surprenait beaucoup. Elle a déjà été utilisée pour développer de simples tissus, des trucs simples, hein, et les implanter sur des patients. Par exemple, des nouvelles vessies pour des enfants qui sont nés avec des anomalies congénitales. Et l'an dernier, des chercheurs ont imprimé une trachée, l'ont implantée sur un porc. Et comme la trachée contenait les propres cellules du porc, il n'y avait pas de risque de rejet. Ça va être un gros avantage. Les chercheurs estiment maintenant il faudrait, par exemple, 10 jours pour imprimer un foie ou un lobe d'oreille de taille moyenne. Bon, il est bien évident que le processus soulève des questions d'éthique et de morale et que probablement nous reparlerons beaucoup de tout ça dans pas très longtemps.
Et vous savez, un des problèmes qu'il y a pour les dons d'organes aussi, que j'entendais récemment, c'est que même si vous avez signé votre carte pour don d'organes, c'est que souvent les familles ne respectent pas cette chose-là.
Mais il y a d'autres cas, par exemple, où au contraire, les familles, même sans signature, acceptent.
Mm-hmm. Alors, il y a un contrepoids.
Peut-être. Voilà, c'est un article, donc, qui s'appelle « L'impression 3D s'attaque à nos organes » du rédacteur en chef de New Tech Insider.
tout est tracé d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, ce sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres, on peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève, on peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle, recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche.
Alors, merci Jean-Sébastien pour cette introduction, la chanson « L'amour » de Karim Ouellet, pour introduire l'article sur l'amour et la science.
Mm-hmm.
Alors, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé, un speed dating scientifique qui nous est raconté par Pierre Mercure dans la presse du 14 février 2015. Est-ce que l'attirance qu'on éprouve pour un inconnu obéit à une science? Peut-être on peut se fier à nos sens. Peut-on se fier à nos sens pour trouver l'âme sœur? Par un samedi soir glacial de janvier, quoique cet hiver, ça aurait pu être n'importe quel soir.
N'importe quel.
Ah, oui, oui.
15 filles et 15 gars se sont livrés à une série d'expériences à caractère scientifique pour le savoir, et je vous raconte comment ça s'est passé.
Mm-hmm. Mm-hmm.
19h30, on commence. Les instructions étaient claires. Et à l'heure convenue, 15 gars se glissent par la porte de service dans un ancien bâtiment industriel du Mile X. Au même moment, 15 filles pénètrent par l'entrée principale du même bâtiment sans croiser la moindre présence masculine.
On dirait un roman policier, hein?
Là, oui, oui, oui. Il y a un suspense, là. Les participants sont accueillis par des gens vêtus de blouses de laboratoire. Les filles sont guidées dans un loft résidentiel aux lumières tamisées. On leur bande les yeux. Puis, les gars, les yeux bandés eux aussi, entrent avec la musique de 69 Love Songs des Magnetic Fields. Ça prend du courage pour faire ce que vous faites. Merci d'être là, lance Amy Chartrand, l'une des deux instigatrices de la soirée. Les cobayes, des célibataires de 25 à 40 ans, sont ici sous un pseudonyme pour participer à une expérience sur le désir.
Ouah!
Pour l'instant, Frodon ignore qu'il sera bientôt profondément remué par les caresses d'une inconnue plongeant les mains dans les siennes. Blanc-Bleu ne sait pas qu'elle subjuguera tous les gars du seul son de sa voix. 20 heures. Écoutez. La soirée s'articule autour des cinq sens. Première à l'horaire, Louis. Sur des chaises, se font face, les yeux toujours bandés, les gars et les filles, qui se récitent l'alphabet.
Tu parles comme c'est sexy.
Oh, c'est romantique. Très romantique, je trouve.
Puis, ils votent pour dire si la voix a su les charmer. Certains s'en tiennent aux instructions, d'autres profitent d'une présence à leur côté pour échanger quelques mots ou tenter une blague. La personnalité transparaît tellement à travers la voix. Les filles sérieuses qui récitaient comme des élèves, « Je n'étais pas très attiré », confiera plus tard un participant. D'autres riaient, étaient plus vives. Ça, j'ai aimé. 20h45. Touché. Les participants qui ne voient toujours rien ont maintenant 30 secondes pour laisser leurs mains se découvrir, mais pas plus haut que le poignet, avertit une des organisatrices. Les mains se flattent, les doigts s'entrecroisent. Les réactions sont explosives. Ça m'a presque fait peur. Sensuellement parlant, ça suscitait des émotions très fortes. C'était sexuel, carrément, nous dit une des participantes. Pour certaines, c'est tout simplement trop. Je pensais qu'on se tiendrait seulement les mains, mais les gars pressaient mes mains, mettaient les doigts entre les miens. J'essayais de me dire « c'est juste les mains », mais c'était trop intime, trop sexuel. Je mettais des barrières, dira une des filles.
On peut comprendre ça.
Hein?
On peut comprendre ça. Hein?
À l'encontre, un des participants, lui, était complètement électrisé plusieurs minutes après l'expérience. La deuxième fille, c'était un feeling incomparable, dit-il, demandant s'il pourra plus tard retrouver l'inconnu. 21h15, sentir et goûter. Chaque participant a apporté un T-shirt. Dormez avec, portez-le toute la journée. Plus l'odeur sera forte, plus l'expérience fonctionnera. Les gars et les filles, maintenant séparés, plongent le nez dans des sacs contenant les T-shirts du sexe opposé.
Ah, je vous dis pas la grimace que je suis en train de faire.
Oui, oui, je la vois.
Expérience étrange.
Les gars ont lavé leurs T-shirts. La plupart ne sentent rien, dira une participante. Par contre, à côté d'elle, une autre fait la grimace, comme tu fais, André. Celui-là est vraiment dégueulasse. De l'autre côté, un gars, l'air intoxiqué, s'enivre d'un T-shirt féminin dont il renifle le parfum encore et encore. Pour explorer le goût, les participants ont apporté un aliment à présenter en offrande à l'autre sexe. Les filles ont amené autant des pommes, des radis, des boulettes de viande, de la réglisse. Il y a même des branches de céleri recouvertes de beurre d'arachide et de raisins secs. De l'autre côté, les gars ont massivement misé sur le chocolat. On trouve aussi des graines de tournesol, des bleuets et une assiette de bacon. 22 heures, voire. Les participants s'écoutent, se frôlent, se sentent depuis maintenant 2 heures, mais ne se sont toujours pas vus.
Ah oui.
Pour plusieurs, le moment de vérité a sonné. Dans le loft, les gars ont formé un cercle. Les filles entrent. Chacune se positionne devant un participant et pendant 15 secondes, les couples se regardent dans les yeux, puis les filles bougent d'une place pour faire face à un nouveau gars. Les regards se rencontrent et s'esquivent. Certains tentent le charme, mais plusieurs visages expriment le malaise. Des petits rires gênés éclatent. Là, je me suis vraiment senti sanctionné, confie une fille. À la fin de l'expérience, un des gars à la longue barbe rousse et à lunettes reste longtemps immobile. « Man, je suis en état de choc. » Ça demande beaucoup d'énergie émotionnelle, tente-t-il ensuite d'expliquer. Tu essaies d'aller là-dedans en projetant de l'ouverture et tu espères en recevoir en retour. Des fois, ça marche, d'autres non.
À dire que c'est lui qui a joué avec mes mains.
Peut-être. Mais là, je vous donne les résultats à mon prochain segment.
On a hâte.
Thank you.
Oui, vous connaissez le phénomène des drones. Bon, on les utilise à toutes sortes de sciences, c'est ce que les Américains ont fait récemment. Mais il y a des drones d'autres que vous pouvez acheter hein, très facilement. Et les autorités américaines ont publié hier une série de recommandations pour encadrer l'utilisation des petits drones commerciaux qui répondent à un vide législatif, en fait. Ils proposent notamment que des pilotes possèdent une licence, bien, j'espère, préconisent des vols de jour, limitent la vitesse à des engins à 160 km/h pour éviter des collisions avec les avions. Incroyable, hein? Le pilote de drone devrait avoir au minimum 17 ans, devra passer un examen tous les 2 ans pour obtenir son autorisation. Et ils ne doivent pas survoler d'autres personnes, ni à être piloté, ben je l'espère, aux abords des aéroports. Vous savez que vous pouvez faire livrer votre pizza par drone, hein? Ouais. C'est incroyable ce qu'on fait maintenant. Fou, hein? Mais ça prend quand même un encadrement, une certaine réglementation, évidemment.
Il y a souvent des accidents hein, avec les drones, hein? Le vernis qui sonne l'alarme. Imaginez-vous un vernis à ongles qui permet désormais aux femmes de détecter la présence de la drogue, du viol dans leur verre. Mmh. Il y a pas mal de choses qui se passent comme ça, hein? Alors, comment ça se passe? En trempant le bout de leurs doigts dans leur drink, si le vernis change de couleur, c'est signe que leur consommation contient du rohypnol, du GHB ou du Xanax. Ce sont les substances chimiques sans odeur ni saveur qui élimine toute inhibition et qui cause une amnésie partielle qui empêche la victime d'identifier son ou ses agresseurs. Il faut savoir quand même que le quart des agressions sexuelles signalées à la police mettent en cause très souvent ces fameuses drogues dites du viol. Et les 4 étudiants américains qui ont mis au point ce vernis cherchent actuellement du financement pour le produire à grande échelle. On espère qu'ils vont réussir.
On est rendu là, hein?
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, tantôt, je vous ai laissé à 22 heures et les expériences amoureuses par les sens venaient d'être terminées.
Suspense.
Alors, je vous lis toujours l'article « Amour et sciences, speed dating scientifique » qui a été écrit par Philippe Mercure dans la presse du 14 février 2015. Et là, on est rendu à 22h30, l'heure de vérité. Là, les lumières sont supposées vibrer. Les expériences sont terminées. La DJ monte le volume. Un bar est installé. Les participants forment de petits groupes. Certains flirtent ouvertement. À l'extérieur, les organisatrices s'attaquent à un travail de moine. Compiler le nombre de votes accordés par chacun des gars pour chacune des filles et vice-versa. Après une heure de labeur, elles présentent les résultats sur 2 immenses cartons. Est-ce que vos sens vous ont guidé vers des gens avec qui vous connectez? C'est le moment de le savoir, lance l'une d'elles.
Un moment de vérité.
Tududum. Exactement 2250 données distinctes sont présentées sur les tableaux. Et s'il y en a qui doutent encore que ceci est de la science, qu'est-ce qu'on peut faire? À ce point-ci, on se retire de nos rôles de scientifiques. Ces données sont pour vous. Donc, sont pour les 15 gars et les 15 filles. Dans un coin, un gars et une fille, Oscar et Blanc-Bleu, discutent seul à seul depuis un moment. « Oscar, tu m'as donné 5 sur 5 », dira Blanc-Bleu en consultant le tableau des résultats. Hmm. « Et toi, tu m'as coché 2 fois », dit Oscar en plissant les yeux. Une longue discussion s'engage. « C'est un indicateur intéressant », finit par conclure Oscar. « Son odeur et sa voix m'ont plu. » Ça bouffe aussi. Et quand on s'est regardé, j'ai aimé ça. Mais ce sont des choses isolées. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment ça se traduit dans l'ensemble de la personne. Autour, les discussions similaires vont bon train. Au moment où la presse quitta les lieux vers 00h30, un seul participant avait quitté la pièce. Selon leurs sources, les derniers participants sont partis à 5h du matin.
Oh!
Et des informateurs confirment que tous n'ont pas fini sagement la nuit dans leur lit. Alors, ce premier article est suivi par un second qui est une entrevue que Philippe Mercure a eue avec les deux organisatrices de l'événement. Et c'est toujours dans la presse du 14 février 2015, les dessous de l'expérience. Derrière la séance de rencontre éclair de speed dating à laquelle la presse a assisté, se trouvent deux personnes, Lee Kotsilidis et Amy Chartrand, deux Montréalaises qui ont fondé l'organisation Scientists for Love, les scientifiques pour l'amour. Oubliez les doctorants en chimie, Lee est poète et artiste visuel, tandis que Amy travaille à l'École nationale de théâtre et multiplie les projets artistiques. Les deux filles défendent néanmoins vigoureusement le caractère scientifique de leur expérience, qui vise à favoriser les connexions humaines. Alors, la presse s'est entretenue avec elles, et dans la suite de ma lecture, les questions viennent du journaliste de la presse. Alors, d'où vient l'idée de l'événement? Alors, Lee répond, « Amy et moi, nous connaissons déjà depuis des années et nous voulions collaborer sur quelque chose. Nous avions vu les recherches sur les phéromones qui expliquent pourquoi on peut être attiré par l'odeur de quelqu'un. Amy avait lu quelque chose sur des séances de speed dating silencieuses où les participants ne font que regarder. Tout ça nous intriguait. On s'est dit, pourquoi ne pas faire un événement organisé autour de chacun des cinq sens? Alors, on a créé un événement autour duquel on aurait aimé nous-mêmes participer. Pourquoi isoler les cinq sens dans des expériences distinctes? C'est pour porter plus d'attention à chacun d'eux. Quand on rencontre quelqu'un, la vue prend souvent le dessus sur les autres sens.
C'est bien vrai.
C'est un peu dommage. On peut aussi être attiré par quelqu'un à cause de l'idée du succès, de l'argent, du statut social. Ces variables sont éliminées dans ces expériences. On donne vraiment toute la place aux sens. Pourquoi présenter la soirée sous le thème de la science? Il y a plein de niveaux à cette réponse. D'abord, il y a un certain jeu de rôle là-dedans. Nous aimons incarner le personnage des scientifiques. Le simple fait de revêtir des sarraux nous donne une certaine notoriété pour mener à bien les expériences. Ensuite, la définition d'un scientifique est quelqu'un qui a une expertise dans un sujet donné. Or, nous nous considérons comme des experts dans des relations humaines. J'ai moi-même écrit mon mémoire de maîtrise sur le désir en littérature et je célèbre des mariages. Je passe des tonnes de temps à parler d'amour et de relations humaines. Mais est-ce que c'est vraiment de la science? Alors, une des organisatrices nous répond, qui a l'autorité pour décréter ce qui est vrai, ce qui est de la vraie science et ce qui n'en est pas? Nous considérons que ce que nous faisons est sérieux. Nous avons une hypothèse de travail qui est lorsqu'examinés de façon isolée, nos cinq sens font des choix harmonisés qui reflètent notre compatibilité. Nous avons monté des expériences qui permettent de tester cette hypothèse en éliminant le plus de biais possible. La différence avec une expérience traditionnelle, c'est qu'au lieu d'analyser nous-mêmes les résultats, nous les mettons dans les mains des participants. Alors, ces deux articles, c'était donc « Amour et science », Speed dating scientifique et dessous de l'expérience, écrit par Philippe Mercure dans la presse du 14 février.
Mais il élimine quand même l'idée, la communication intellectuelle. Alors qu'est-ce qu'on en fait là?
Ouais, ben un coup que le lien est fait, après ça on peut travailler là-dessus.
D'accord.
Alors, je vous amène faire un petit tour à San Diego, sur la côte du Pacifique, en bas de Los Angeles. Là, on est tout près. En fait, on est rendu presque au Mexique à ce moment-là, près de Tijuana. C'est par Ariane Lacourcière dans la presse du 24 janvier. Un endroit intéressant, le parc Balboa. Et on peut arpenter 1200 acres de végétation luxuriante, pavillons construits pour l'exposition Panama-Californie en 1915. Des week-ends, particulièrement les familles sont nombreuses à s'y balader et à visiter aussi l'un des 17 musées du parc. Il y a le musée des sciences naturelles, le musée de l'air, de l'espace de San Diego, qui sont particulièrement approprié pour les enfants aussi. Et pour les enfants et pour les grands, il y a le jardin zoologique, le zoo. Une visite à San Diego, on nous dit, ne saurait être complète sans une visite au célèbre zoo de la ville, un des plus beaux au monde, je dirais. C'est l'attraction phare de San Diego. Il regroupe plus de 3700 espèces sur un territoire de 100 acres. Il est possible de passer des heures dans ce parc sans parvenir à tout voir. Et pour une vue imprenable sur les installations, il est recommandé d'emprunter le téléphérique. Et c'est toujours intéressant là où il y a des téléphériques parce que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Mm-hmm. Et il y a un endroit qui s'appelle le Gas Lamp District. Étonnant.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ben, le Gas Lamp District, c'est que le soir venu, les rues sont illuminées par des centaines de lampadaires qui émettent les anciennes lampes à gaz.
Mais ce sont des lampes électriques quand même.
Oui, absolument. C'est une imitation.
Sauf qu'elle vacille un petit
peu,
là.
Situé dans le centre historique de San Diego et compte un grand nombre de boutiques, de restaurants, hein, bien sûr. Oh, il est possible de déguster, parce que quand on est au bord de la mer, ben, évidemment, les poissons et fruits de mer, ben oui, pour ceux qui les aiment. Et en soirée, le Gas Lamp se transforme et devient très diversifié. Vous avez Don Flores, qui est The Beast of San Diego. C'est un charmant monsieur qui est vêtu d'un masque, d'une tenue de lutteur mexicain qui accepte de se faire photographier, particulièrement avec les enfants. C'est pas le genre de choses que j'adore, ça fait un peu clownesque, ces choses-là. Il y en a partout où vous vous promenez. Hein? Et maintenant, vous avez aussi un endroit particulièrement intéressant qui est, il y a plein de choses à San Diego. Hein? C'est une ville très intéressante, San Diego.
Oui,
il était assez récemment. Et il y a un endroit qui s'appelle le Musée maritime, Maritime Museum, si vous préférez.
Je suis allée à San Diego, puis je ne me souviens pas d'avoir vu ce musée maritime.
Moi, je demeurais tout près. Donc,
d'accord. Vous allez pouvoir nous en parler.
Mon hôtel était à côté. C'est un musée des plus intéressants parce qu'il se compose de plusieurs navires que l'on peut explorer. Les visiteurs peuvent, entre autres, monter à bord du Star of India, qui date de 1863. Le plus ancien bateau à voile au monde.
Ah oui?
Encore en activité.
Ah oui?
Ah, c'est incroyable,
oui,
hein?
Oui.
Et vous avez aussi le Medea 1904, qui est un ancien bateau de plaisance qui a été converti en navire de guerre et qui a servi durant les deux guerres mondiales. Et vous en avez un qui a un nom assez particulier, le HMS Surprise. Un beau nom, hein? HMS Surprise. C'est une magnifique réplique d'une frégate de la marine britannique du 18e siècle. Donc, un peu pour tout le monde. Hein? Et il y a aussi un sous-marin soviétique, le B-39, et un des plus gros qui soit, et ça complète la collection du musée.
Pas mal.
Vous avez aussi un endroit qui est magnifique, c'est le Coronado. Coronado, c'est une presqu'île très riche en histoire, en paysages, et très riche aussi en habitations, je peux vous le dire. Ça porte bien son surnom de Crown City. C'est joli, hein, Crown City. Mm. C'est bordé par l'océan Pacifique, la baie de San Diego, et cette jolie petite ville maritime se trouve en fait sur la presqu'île Coronado Island, qui se rattache au continent par une bande de terre qui s'appelle Silver Strand. Il faut, lorsqu'on est à Coronado, absolument aller voir l'hôtel Del Coronado.
Prendre un petit thé, manger des petits gâteaux aussi.
Oui, puis qu'on appelle là-bas familièrement le Del. Et c'est décidément le centre d'intérêt de Coronado, de Coronado Island. Il est reconnaissable dans ses façades blanches, son toit octogonal rouge, simplement extraordinaire. On vit dans un autre monde quand on va au Coronado. Il faut profiter de cet emplacement exceptionnel pour aller prendre un apéro en admirant l'océan Pacifique. Et c'est un endroit mythique parce que vous avez des photos de toutes les stars qui y ont été,
évidemment.
Particulièrement Marilyn Monroe, Frank Sinatra, le prince de Galles, hein, la duchesse de Windsor et 14 présidents des États-Unis. Ils sont passés. Donc, vous imaginez, c'est mythique. Hein? C'est vraiment, vraiment magnifique.
Plusieurs de nos sens sont sollicités.
Ah, hein? Absolument. Ah, oui, il s'est passé beaucoup d'amour, j'ai l'impression, dans cet endroit. Mm-hmm. Et vous avez un endroit qui s'appelle, entre autres choses, il y a plein de choses à visiter, le Crystal Pier. C'est le point de repère de la région depuis 1927. Le Crystal Pier, c'est un long quai qui s'avance sur plus de 250 mètres dans le Pacifique. Et l'endroit est populaire pour la pêche. Et il y a des surfeurs qui s'en donnent à cœur joie aussi dans les vagues qui entourent son imposante structure. Vous avez plein d'autres choses à voir. Vous êtes près de Tijuana, hein? C'est ceux qui veulent piquer une pointe vers le Mexique, le SeaWorld et plein de belles choses à voir à San Diego. Et c'est un endroit, c'est le cas de dire, très pacifique. Ce que j'aimais, c'est que lorsque vous venez pour traverser la rue, les gens arrêtent pour vous laisser passer.
Mon Dieu!
On est loin de Montréal, hein?
Quand même, ça arrive à Montréal.
Rarement. C'était par Ariane Lacourcière dans la presse du 24 janvier.
Et je descends lentement l'escalier rouge et blanc de l'avion qui m'emporte chaque nuit en Californie. En Californie. In California. Est-ce la monnaie du soleil, le jaune des taxis ou celui des hommes qui s'éparpille dans la nuit,
où s'éparpille la vie en Californie, en Californie.
California. Un moteur gris dans le brouillard me pousse au fond de nulle part entre les anges dans le soir. Les peintes de lait tout en or
se stérilisent dans les bars en Californie. En Californie.
À mon réveil, où étais-tu? Il ventait fort dans mes oreilles. J'achèterai un camion blanc qui nous emportera au printemps en Californie.
En Californie.
In California.
Donc, l'article dont je vais vous parler, c'est une manne de cellules souches. C'est un article qui est extrait de Québec Science du mois de janvier-février et qui récapitule une des 10 découvertes de l'année au Québec de l'Université de Montréal. Est-ce que vous vous souvenez l'été dernier de cette jeune femme vietnamienne qui avait besoin d'une greffe, un donneur de moelle osseuse?
Ah oui, ça a fait des manchettes. Hein?
Ça a fait des manchettes. On en a parlé beaucoup. Oui. Mais vous savez qu'au bout du compte, on n'a pas trouvé de donneur. Ce qui se passait, c'est que pour les médecins, il leur fallait se rabattre sur un plan B. Et le plan B en question, c'était une greffe de sang de cordon ombilical. Le cordon ombilical, comme la moelle osseuse, contient des cellules souches, mais en moins grande quantité. Et c'est à partir de ces cellules souches que toutes les cellules sanguines se développent. Un hématologue qui s'appelle le docteur Guy Sauvageau écrit que le sang de cordon provient d'un bébé naissant contient très peu de cellules souches, ce qui fait que finalement, seuls 5% des dons recueillis peuvent être utilisés pour soigner des adultes. Mais son équipe vient d'identifier une molécule qu'il qualifie de « miracle » qui pourrait révolutionner la greffe de cellules souches et par le fait même sauver de nombreuses vies. Alors, la molécule en question, ils l'ont baptisée l'UM, pour faire honneur à l'Université de Montréal, 171. Le 171 n'est pas expliqué. Mais donc, cette molécule permet de multiplier par 13 le nombre de cellules souches présentes dans le sang de cordon ombilical, dont vous vous souvenez, je disais qu'il y en a assez peu. Et lorsqu'on met les cellules souches en contact avec cette molécule pendant 12 jours, elles prolifèrent de façon importante et à la fin, on obtient l'équivalent de 10 unités de sang de cordon pour une. Donc cela, vous comprenez bien, rend désormais possible, en théorie quand même pour le moment, l'utilisation de la totalité des unités de sang de cordon et quel que soit le gabarit du receveur. Parce que l'histoire de Mei Duong, c'est que sa greffe a quand même réussi parce qu'elle avait une toute petite stature, un tout petit format. Donc là, ça pourrait être, quel que soit le gabarit du receveur, même si c'est un monsieur costaud. Je parle toujours des monsieur costauds plutôt que des dames costauds. J'aime mieux ça. Ce qui est intéressant quand même aussi de signaler concernant cette fameuse molécule UM171, qu'elle multiplie par 100 ce qu'on appelle des progéniteurs. C'est un autre type de cellules qui sont essentielles à la réussite d'une greffe. Donc, après l'amplification par l'UM171, le sang de cordon devient même, lui, plus riche encore que la moelle osseuse qu'on utilise habituellement pour les greffes chez les adultes. Donc, vous voyez que le potentiel est absolument énorme.
Et comment on est arrivé à découvrir cette molécule-là?
Alors là, ils ont travaillé pendant longtemps. Hein?
Oui, j'imagine.
Hein? Oui, parce que ce qu'ils ont fait d'abord... Ils ont sélectionné plus de 5200 molécules dans la collection qui est la collection de l'IRIC. IRIC, c'est l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie. Je vous rappelle que Guy Sauvageau est un hématologue. Hein. Donc, ils ont sélectionné ces molécules et le choix s'est fait un petit peu par hasard, un petit peu intuitivement. Et au bout du compte, ils ont quand même constaté qu'il y en avait une qui se détachait clairement des autres par son efficacité. Alors, ils ont fabriqué 300 copies de cette molécule qu'ils pensaient rare et qui s'est avérée 20 fois plus efficace que la molécule de départ. Bon, quand même, juste ce travail-là, ça a demandé plus de 2 ans de travail. Du côté des cellules, il fallait vraiment s'assurer que l'UM, en 171, n'induisait pas de prolifération anormale, notamment, évidemment, cancéreuse, hein, qu'elle pouvait être rincée, c'est écrit entre guillemets, et qu'elle peut être éliminée facilement en vue de la greffe et qu'elle ne présentait pas de danger. Ça s'est avéré efficace et pas de danger effectivement avec cette molécule. Bon, c'est pas tout, hein. C'est que l'équipe s'attend aussi à ce que le sang de cordon enrichi augmente les chances de guérison.
Et jusqu'à quel point ça augmente les chances?
Oui, alors ça, c'est intéressant de savoir. C'est que après une greffe, il y a une période qui s'appelle une période de latence, une durée d'aplasie finalement, entre le moment où on fait la greffe et où il y a la production des premières cellules sanguines. C'est une période qui est très dangereuse parce que les défenses immunitaires sont inexistantes. Normalement, quand on fait avec une greffe de moelle, c'est 26 jours. Et là, avec la molécule, on réussit à la ramener à 12 jours. Donc, vous voyez qu'on diminue de moitié le risque de défense immunitaire amoindrie. Ce qui est intéressant aussi quand même, c'est que le prélèvement, évidemment, est indolore, puisque les dons de moelle osseuse, ça nécessite une anesthésie générale pour le donneur. Un autre avantage aussi avec ces nouveaux organes en trois dimensions, c'est qu'il y a moins de risques de complications immunologiques à long terme. Parce que pour des raisons qu'on ignore, il y a moins de risques de rechute. Et ça fait d'ailleurs partie d'un des objectifs de Guy Sauvageau, parce que, bon, c'est sûr que cette découverte, il dit lui-même que c'est la découverte de sa vie et le couronnement de 20 ans de recherche. Mais que ce qu'il veut identifier maintenant, ce sont les mécanismes qui permettent de multiplier les cellules souches, parce qu'on ne connaît presque rien. On constate les résultats, mais on ne comprend pas encore exactement comment ça peut
se faire. C'est très nouveau quand même. Oui.
C'est très nouveau, donc. Oui. Alors ça, c'est quand même un espoir, cette découverte de cette molécule de l'Université de Montréal, quand même, ça représente quand même une découverte immense, puisque aujourd'hui, il y a quand même 30 à 40% des personnes atteintes de leucémie ou d'autres cancers du sang qui ne trouvent jamais de donneur de moelle osseuse compatible. Alors donc, c'était un article extrait de Québec Science.
Si je peux juste ajouter une petite chose, c'est que je pense que tu mentionnais que la jeune Vietnamienne n'avait pas trouvé de donneur.
Non.
C'est que au moment où Québec Science a été écrit, elle n'avait pas trouvé de donneur, mais je crois que maintenant, elle a trouvé un donneur. Je crois avoir vu récemment.
Mais je pense que ce qu'on a fait sur elle, c'est qu'on a utilisé le principe de greffe...
Possible. Ouais, possible. Donc, c'est d'où ma confusion.
La greffe de sang de cordon ombilical. Ah bon? Ils ont utilisé ça et ils ont pu l'utiliser parce qu'elle avait un tout petit format.
Oui,
parce qu'il
n'y
a pas beaucoup
ça,
de cellules dans ces cordons ombilicaux.
Exact.
On attend l'UM171 pour les faire proliférer.
Bien.
Alors, vous serez sûrement surpris que je vous parle d'amour et de science. Donc, les phéromones sont des molécules inodores que l'être humain dégage par la salive, la transpiration, l'urine et les glandes situées dans les régions génitales. Elles sont fortement soupçonnées d'agir comme des signaux chimiques invisibles qui influent sur nos comportements. Alors, l'amour nous prend-il vraiment au bout du nez? Peut-être pas, mais il est probable que la façon dont nous choisissons nos partenaires, elle, repose sur les phéromones. Certaines de ces molécules constitueraient un marqueur aussi distinctif qu'une empreinte digitale et seraient révélatrices de notre bagage génétique et immunitaire. Un chercheur a découvert que les femmes préfèrent l'odeur des hommes dont le profil génétique et immunitaire est différent du leur.
Wow! Il faudrait qu'on connaisse le nôtre déjà?
Mm-hmm.
Je vais vous parler des chauves-souris.
Oh.
Et comment une chauve-souris peut en pirater une autre.
Ah oui?
Ouais, les chauves-souris, même les chauves-souris jouent les pirates. Bon, vous savez que les chauves-souris, elles peuvent voler, elles savent voler dans le noir grâce à leur système d'écholocation. C'est bon, une sorte de radar assez sophistiqué d'ailleurs, qui leur permet d'éviter les obstacles les plus fins et surtout aussi de localiser les insectes parce qu'elles servent à les nourrir, bien sûr. Même s'ils sont minuscules, elles réussissent. Par contre, ce qu'on ignorait, c'est que la chauve-souris est capable de brouiller l'écoute radar de ses congénères. Alors, comme j'ai insisté sur l'alimentation, vous comprenez que l'objectif, c'est évidemment de piquer les insectes que les autres ont repérés. Alors, elles se mettent volontairement sur la même fréquence que leurs ennemis, entre guillemets, pour les empêcher d'attraper les proies et les avaler à leur place. À la dernière seconde, elles vont switcher sur une autre fréquence. Donc, la sélection naturelle nous poussera-t-elle un jour à couper le réseau Wi-Fi de nos voisins pour manger à leur place?
Il y a une mini-entreprise de Londres qui a trouvé quelque chose d'assez particulier. Elle dit, vos équipes travaillent fort, vous aussi. Récompensez-vous donc à la fin de la semaine. Ça, c'est le credo de Desk Beer, une entreprise qui livre les vendredis après-midi des bières de microbrasserie sur les lieux de travail.
Wow!
Livraison garantie...
Tout le monde va vouloir travailler chez eux.
Livraison garantie avant 17 heures. Et nous dit, parce que personne ne devrait avoir à attendre plus tard pour une bière, expliquent les fondateurs. Alors, on ne dit pas si ça a augmenté la productivité ou non, peut-être. Les employés restent plus longtemps. Bah, c'est particulier. Voilà, sur cette note humoristique, on arrive à la fin de notre émission. Hein. Ben, j'espère que nos sujets vous ont plu. Ben, faites-le nous savoir. Écrivez-nous notre site canalm.org. On attend vos nouvelles. C'est important pour nous. On remercie André.
Merci.
Pour sa participation. Oui. Yvan aussi. Hein.
Merci
et,
beaucoup.
Mise en onde des choix musicaux et sourires compris, bien sûr, Jean-Sébastien Laliberté qu'on remercie aussi. On est en reprise, si vous voulez nous réentendre, à 13h et à 21h. On vous souhaite une très bonne journée.
Au revoir, à la semaine prochaine.